les chemins de traverse. Rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins de traverse sur REC 103.7, animé par Francis.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour si vous nous rejoignez sur REC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie. Aujourd'hui, notre invité, Nicolas Moinet. Nicolas, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, très bien, merci.
Facile de venir hein, sur Chauvigny, je pose la question à chaque fois à nos invités, mais c'est vrai que c'est très facile.
Oui, voilà, sans problème.
Sans problème. C'est une ville que vous connaissez bien ?
Oui, c'est une très belle ville. Je viens 2-3 fois par an, notamment pour faire une séance de vélo-rail avec les enfants. C'est toujours un moment agréable. Ou pour visiter la vieille ville qui est quand même assez extraordinaire.
Exactement. Vous avez des enfants apparemment, donc
Ah là là, oui, 4.
4 petits grands ?
Il y a des grands.
Il y a tous les âges.
Ça va de 23 à 14.
Ça. Et eux aussi sont intéressés comme vous à l'économie, puisqu'on va parler d'économie aujourd'hui ?
Oui, surtout mon fils, oui, qui est en école d'ingénieur, mais qui est très porté vers l'industrie et qui fait partie de cette génération qui veut participer à la réindustrialisation de la France. Et c'est tant mieux parce qu'il y a un peu de travail.
Eh ben c'est une très belle chose, en effet, très très belle chose. Je vous ai invité aujourd'hui, donc vous êtes professeur à l'université de Poitiers, c'est
oui,
bien ça ?
À l'Institut d'administration des entreprises.
Exactement, qui se situe sur le site du Futuroscope, hein, de la Technopole, non ?
Ah non, pas du plus. Il y a longtemps, on était là-bas, effectivement, mais maintenant, on est à côté du rectorat. Voilà, en contrebas du centre-ville.
D'accord, oui, j'allais dire dans le centre-ville, c'est un peu difficile.
Non, hein. Nous récupère l'eau quand il pleut.
Ah voilà, bah c'est pas plus mal.
On est dans la cuvette.
Vous êtes donc professeur d'économie à Poitiers, mais pas que, hein, je crois que vous êtes aussi...
Professeur surtout en fait en intelligence économique. C'est beaucoup de gestion, de l'information, de la communication, un petit peu d'économie, beaucoup de géopolitique. C'est un mélange en fait, c'est très interdisciplinaire.
Ce que je disais tout à l'heure à nos auditeurs, hein, on va parler aujourd'hui un peu d'intelligence et d'économie, ça fait beaucoup de choses, et de guerre aussi, guerre économique. Donc guerre et intelligence, généralement, ce n'est pas forcément deux choses qui vont ensemble, on verra que si dans le domaine de l'économie. Depuis combien de temps, j'allais dire, depuis quelques années maintenant, vous êtes professeur, vous avez une cinquantaine d'années, un peu comme moi.
Ouais, oui,
enfin, un peu
plus, mais... j'ai 55 ans, je suis arrivé à l'université de Poitiers en 1999, j'y étais un peu avant, quand j'avais fait mon doctorat. Voilà, mais je suis parisien d'origine, et je travaille dans le domaine, effectivement, de l'intelligence économique depuis 32 ans maintenant.
Avec des antécédents familiaux pour se lancer en économie ? Parce que c'est vrai que c'est un milieu, enfin c'est un domaine qui est assez complexe.
Non, c'est plus des rencontres. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer des personnalités comme Christian Arbulot, qui est le directeur de l'école de guerre économique. J'ai travaillé avec lui à Paris, j'ai rencontré pas mal de militaires, parce que j'ai une activité qui est assez liée en fait au monde de la défense au sens large, voilà, militaire, service de renseignement. Donc voilà, c'est le hasard, entre guillemets, des rencontres, même si... Voilà, certains estiment qu'il n'y a pas de hasard.
Oui, tout à fait.
Exactement. Il n'y a que des rendez-vous.
Je voulais vous remercier en même temps. On a Elisabeth Morin-Chartier, que vous aviez eu au téléphone hein, lorsque je l'avais invitée. Vous aviez discuté ensemble. Il était prévu qu'elle puisse venir. Enfin, elle est venue d'ailleurs il y a quelques temps. Vous, par contre, vous ne pouviez pas, puisque, comme vous le disiez, vous êtes intéressé au niveau de l'armée. Et vous étiez du côté de Toulon, je crois.
Oui, alors c'est vrai que quand je vous l'ai dit, je me suis dit, il ne va jamais me croire. Mais j'ai dû malheureusement annuler, je m'excuse encore une fois, auprès des auditeurs, parce que oui, je suis parti 3 jours dans un sous-marin nucléaire d'attaque. Alors quand je dis ça, souvent les amis ils se marrent, ils disent oui, mais enfin bon, t'étais où en fait ? J'étais dans un sous-marin nucléaire d'attaque. Voilà, c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Donc j'ai fait une demande à la Marine nationale et ils ont accepté. Donc j'ai fait une mission. Enfin, j'ai observé une mission, bien sûr, pendant 3 jours de torpillage d'un sous-marin ennemi et une mission de renseignement dans ce qu'on appelle un sous-marin nucléaire d'attaque, le Suffren. Pour les auditeurs, il y a deux grands types de sous-marins. Les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ceux qui ont les missiles nucléaires, qui partent 70 jours sous l'eau et qu'on revoit plus. Et puis, ce qu'on appelle les sous-marins nucléaires d'attaque, c'est des sous-marins qui sont là pour soit pour escorter les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, soit pour faire des opérations de torpillage, de forces spéciales, hein, pour envoyer ce qu'on appelle les commandos marines, les nageurs de combat, soit pour faire du renseignement.
Vous dites que vous avez fait une demande au niveau de l'armée.
Oui.
Je suppose que moi, je fais une demande. C'est pas, j'aurais pas la même réponse.
Écoutez, je peux pas vous dire. Je voudrais pas vous décourager.
Voilà. Mais
non, mais bon, voilà.
Voilà, vous êtes vraiment dans le domaine. C'est pour ça que
je suis dans le domaine. Je suis un petit peu connu, donc ils savaient que j'allais valoriser ça après par des écrits, par des entretiens. Voilà, l'idée de la marine, c'est de rayonner et à juste titre parce que c'est quand même assez extraordinaire. Aussi bien la technologie française, hein, Naval Group et autres, qui fabriquent. Il y a très peu de pays capables de fabriquer des sous-marins nucléaires, hein, faut le savoir. Hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 pays maximum. Donc on est dans la cour des grands. Et puis aussi les équipages, vraiment, c'est du très haut niveau de compétences. C'est quand même des environnements assez difficiles. Donc voilà, il faut faire rayonner ça parce que ça fait partie du positif en France, il y a du positif. Mmh. Voilà, il faut parler du négatif, mais il faut aussi parler du positif.
Oui, très 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 belle chose, une belle expérience en tout cas que ces 3 jours passés en mer.
Oui, ça je vais m'en souvenir longtemps.
Exactement. Vous êtes je l'ai dit donc professeur à l'université de Poitiers. Vous êtes aussi auteur. Vous avez écrit de nombreux livres, dont le tout dernier qui s'appelait donc de.
Donc le dernier s'appelle De la compétition à l'affrontement aux éditions Valeur Ajoutée VA édition, voilà, qui est le troisième d'une trilogie dont le nom est Les sentiers de la guerre économique. Voilà. Le nom de la trilogie, et là, le nom de ce volume-là, c'est De la compétition à l'affrontement. On pourra en reparler parce que j'essaye de populariser le nouveau triptyque pour comprendre en fait le monde actuel qui est non plus paix, crise, guerre, qui n'a plus de sens, mais qui est compétition, contestation, affrontement. Hein, qui est une grille de lecture qui a été développée par un Français, hein, et qui est repris aujourd'hui par l'OTAN, qui est le chef d'état-major actuel des armées, donc Thierry Burkhardt, le général Burkhardt. Voilà, c'est, si vous voulez qu'on en discute, c'est très important parce qu'on ne peut pas comprendre le monde actuel si on a les mauvaises lunettes, en fait.
Exactement, oui. Un livre, d'ailleurs, qui se lit très bien, hein, je l'ai lu moi-même, et c'est vrai que généralement, on a un peu peur, on s'inquiète toujours quand on invite un économiste, on s'aperçoit que ça se lit très très bien, sans souci, c'est un peu comme un roman.
Je m'intéresse à l'économie, mais j'ai la chance de ne pas être économiste, donc effectivement.
Oui, tout à fait.
Je taquine mes collègues économistes.
Voilà. Mais c'est vrai que ça se lit très très bien. Moi, j'ai réussi à le débrouiller. Alors,
J'essaie de donner beaucoup d'exemples, surtout. C'est ça qui est important. Donc,
Oui, c'est ça. On essaiera d'ailleurs d'en citer certains, puisque j'ai vu, c'est vrai qu'il y a pas mal d'anecdotes dans le livre. En rappeler quelques-unes pour amener nos auditeurs à pouvoir se fournir ce livre chez Bravard pour Chauvigny ou ailleurs. Il y a énormément de libraires dans le secteur. Donc, un livre qui est sorti maintenant depuis quelques mois.
Oui, il est sorti fin 2024, pardon. On ne sait pas si vieux que ça.
Oui, ça fait quelques mois.
Il ne se périme pas, attention.
Ah, non, tout à fait, non, au contraire, non, on le trouve
et
toujours.
Et on peut même dire que de la compétition à l'affrontement, en ce moment, on est plutôt gâté.
Exactement, c'est ce qui est intéressant. Alors, je vois, plus on reculait dans la date, puisque j'avais Elisabeth Morin-Chartier il y a quelques semaines, plus on recule dans la date, plus on s'aperçoit qu'on est dans le thème, en fait. Hein.
Ah oui, on est dans le thème. Là, on a l'Iran en ce moment. Taïwan, ça va pas tarder probablement. On va pas s'ennuyer.
Hein. Pour vous, c'est du pain sur la planche, en tout cas. C'est du grain à moudre, je sais pas.
Oui,
mais
malheureusement, pour tout le monde, mais ouais. Oui, c'est pas. Voilà.
À terme, justement, l'inquiétude, puisqu'on en parle, c'est. Il y a une inquiétude véritablement pour nous au niveau de ces guerres. On a un risque, un jour d'après vous, que ça aille un peu plus loin que ça, ou simplement, on a l'impression pour l'instant quelques coups.
On peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais c'est vrai que, en fait, elle est déjà là. C'est-à-dire que, mais on reprendra le triptyque si vous voulez, on est déjà attaqué sur notre territoire. Pas évidemment classiquement comme l'Iran ou comme l'Ukraine. Mais la Russie, par exemple, est présente sur le territoire français, mène des opérations de sabotage, a attaqué, ça a été officialisé par l'ANSSI en 2022, 10 hôpitaux français, hein, c'est des hackers russes. Voilà, c'est la première fois d'ailleurs que l'ANSSI officialisait une attaque, nommait l'attaquant. Et donc, quand vous attaquez un hôpital, d'un point de vue cyber, c'est une guerre, hein, c'est une guerre cyber. Puisque le résultat, ça peut être des morts. Alors évidemment, c'est très impalpable. Mais quand vous ne pouvez pas opérer, par exemple, eh bien, les gens qui y attendent peuvent avoir des complications, etc. Donc là, il y a eu 10 attaques en 2022. Il y a du sabotage. Moi, je serais curieux de savoir qui a saboté les pylônes électriques dans le sud de la France. Ça peut être directement la Russie ou ça peut être indirectement des groupuscules extrémistes financés. Ça, c'est un grand classique hein, de l'histoire de l'humanité. On finance des groupes extrémistes, évidemment, qui viennent porter la contestation chez l'adversaire. Ce sont des guerres, en fait, hybrides, des guerres, on va dire, de basse intensité, mais c'est des guerres quand même.
D'accord. Au niveau de la nature humaine, on doit être un peu dégoûté, quelque part, parce que moi qui suis un peu tout loin de tout ça, je vois pas tout ce qui se passe, nos auditeurs non plus, mais vous qui êtes plongé dedans en permanence, ça doit un peu vous faire avoir une vision différente, on va dire, de la nature humaine.
Ça fait quand même 55 ans que je suis sur Terre. Je suis passé par l'école. Enfin, quand vous passez par l'école et que vous avez l'histoire de France ou du monde, il y a quand même quelques petits conflits. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais.
J'ai été très marqué par le premier conflit mondial. C'est vrai que mon père m'avait emmené à Verdun, etc. Et bon, je veux dire. Mais vous n'êtes pas dégoûté. Enfin, vous n'êtes pas dégoûté. Non, je veux dire, il faut être réaliste sur la nature humaine, qui est capable du meilleur et du pire, mais aussi du meilleur. Des gens qui sauvent des vies tous les jours. Moi, je suis intervenu récemment chez les sapeurs-pompiers, le SDIS de la Vienne. C'est des gens extraordinaires. Oui. Des gens extraordinaires, on en trouve partout. Voilà, les marins, les sous-mariniers, par exemple, ou les autres, qui passent des mois en mer sans voir leur famille, sont des gens aussi extraordinaires. Bon, les médecins, enfin, on ne va pas tous les faire.
Hein. Mmh, c'est ça.
Non, donc, faut être conscient de la réalité de la nature humaine. Voilà. Il ne faut pas se leurrer. C'est ça. Le danger, c'est de se masquer la réalité. Mmh. Mais il ne faut pas la voir que d'un œil. Hein. Il faut ouvrir ses deux yeux.
Voilà. Exactement. Et c'est ce que vous faites.
Ce que disait Voltaire. Hein, voilà. Il ne faut pas être borgne. Quoi. Il faut utiliser les deux yeux. Il y en a un qui voit le bien et un qui voit le mal.
Exactement.
C'est en stéréo, en fait. Voilà.
Et c'est vrai que c'est pas évident pour nous qui sommes un peu loin de tout ça. On est abreuvé de réseaux sociaux, d'informations plus ou moins contradictoires, plus ou moins vraies ou fausses. Vous avez des moyens de vous informer qui sont peut-être différents. C'est vrai que de ce côté-là, on n'est pas sur le même point d'égalité. L'avenir, en fait, ma question, c'est plus par rapport aux enfants qui arrivent. L'avenir par rapport à ça, c'est quoi pour eux? Parce qu'on peut s'inquiéter.
Alors l'avenir, c'est de revenir en arrière jusqu'à un certain âge. C'est la déconnexion. Ça, c'est essentiel. Ouais. Mais on y vient. Hein. Les pays d'Europe du Nord l'ont fait. Hein.
D'accord. Sous quelle forme des connexions
ils ont interdit les tablettes à l'école, par exemple en Suède.
On parle aujourd'hui un peu en France.
Je pense qu'il y a une responsabilité de l'éducation nationale. Mettre des tablettes au collège, par exemple, pour moi, c'est vraiment... parce qu'on est dans l'hyperconnexion permanente. Or, ce qu'il faut apprendre jusqu'à un certain âge, c'est à prendre son temps, c'est à réfléchir, c'est à s'ennuyer, très important. C'est une responsabilité collective, hein, pas que de l'école. Hein. Voilà. Donc l'avenir, c'est ça. C'est quand vous disiez comment je m'informe, je ne suis pas plus intelligent que les autres, hein, mais je prends le temps de m'informer, parce que ça demande du temps. Je vérifie les choses, des fois je me fais désinformer aussi, j'ai essayé de recouper l'information, je fais une revue de presse tous les matins, en tout cas j'essaye. Voilà, c'est ça, avec des médias différents. Mmh. Quelles que soient ses opinions, vous êtes de droite, il faut lire les médias de gauche, de gauche, il faut lire les médias de droite, etc. etc. Il ne faut pas s'enfermer dans ce qu'on appelle les bulles cognitives. Ça, c'est vraiment c'est le danger. Hein. C'est ce qu'un sociologue, Gérald Bronner, appelle l'apocalypse cognitive. On s'enferme dans des bulles, et avec des systèmes d'algorithmes aujourd'hui qui nous ramènent, en plus, plus vous aimez quelque chose, plus ça vous, ça vous le ramène en priorité. Mmh. Or, l'intelligence est dans l'altérité. Il faut rencontrer des choses qu'on n'aurait pas dû rencontrer, des personnes qu'on n'aurait pas dû connaître. C'est ça qui est essentiel pour être le plus intelligent possible, on va dire, pour élargir son... les anglo-saxons ont un terme qui n'a pas d'équivalent en français que j'aime bien. C'est, ils disent qu'il faut avoir la big picture. Voilà. Il faut voir à 360. Vous voyez, voilà. C'est ça, en fait, le vrai enjeu. Hein. Mm-hmm.
Au niveau des étudiants qui sont avec vous, vous avez dû voir ces dernières années une évolution tout de même, non? Entre l'étudiant que vous avez eu peut-être il y a 35 ans au départ de votre carrière et aujourd'hui, les mentalités ont forcément évolué, les capacités aussi.
Alors c'est vrai que nous, il y a un biais, parce que les étudiants du master intelligence économique de l'IE de Poitiers, ils sont très engagés, il y en a beaucoup qui sont réservistes dans l'armée ou ailleurs, donc il y a peut-être un biais. Mais ce qu'on remarque, moi ce que je remarque dans la nouvelle génération, c'est qu'il y a une volonté de s'engager et de servir de plus en plus importante. Ils sont attirés de plus en plus par des métiers qui ont du sens. Ah, moi j'ai des étudiants qui après un master s'engagent comme simple soldat dans l'armée, hein. J'en ai eu. Hein. Donc ils n'ont plus nécessairement envie d'aller faire des métiers, ce qu'on appelle les bullshit jobs, enfin des métiers sans intérêt, qui d'ailleurs vont être pour la plupart, à mon avis, supprimés avec le développement de l'IA. Donc voilà, ça c'est quand même une évolution positive. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les étudiants? Non, ils sont plutôt ouverts d'esprit. Voilà. Mais je vous dis, il y a un biais, parce que nous, c'est des étudiants déjà qui ont cette envie, je dirais, de faire du renseignement, de faire de l'influence. Donc,
voilà. C'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai qu'on ne peut pas comparer par rapport à un collégien, un lycéen et à un étudiant du
cycle. Mais je pense qu'on a une jeunesse plutôt bien. Hein. Ce qui ne suit pas, c'est le système aujourd'hui. Hein. Puisqu'on est là, je peux dire ce que je pense.
Mmh, bien sûr.
On a dérégulé l'enseignement supérieur. Je trouve que c'est très grave. Et on amène beaucoup trop de jeunes dans certaines filières et pas assez dans d'autres. Moi, c'est un peu mon dada, mais je vous dis, parce que mon fils fait une école d'ingénieur, mais enfin, pas assez d'ingénieurs en France. L'avenir du monde, c'est quand même la technologie. Enfin, ça a toujours été, mais enfin, c'est encore plus important. Le pays des écoles d'ingénieurs ne forme pas assez d'ingénieurs aujourd'hui. Par contre, on a beaucoup trop de monde dans les écoles de commerce. Et on a des écoles de commerce qui sont tout à fait honorables et d'autres qui sont créées du jour au lendemain, qui ferment d'ailleurs du jour au lendemain. On a eu le cas à Poitiers il n'y a pas longtemps. Là, il y a une responsabilité de l'État et du collectif. On ne devrait pas permettre ces choses-là. À un moment, il faut quand même réguler. Hein. La dérégulation, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Hein.
C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans le domaine de l'image. On a plus l'impression
on n'a pas assez d'artisans, on n'a pas assez de plombiers, on n'a pas assez d'électriciens, pas assez de techniciens supérieurs. Hein. Il y, n'y a pas que les ingénieurs. Voilà, bah, c'est le médecin, bon, ça évolue un peu. Mais enfin, bon, à un moment, il faut quand même, si on veut avoir une société dynamique et si on veut ne pas s'appauvrir, c'est quand même l'enseignement supérieur notamment, mais même avant, enfin, l'orientation, on va dire, des jeunes, c'est essentiel.
Vous parliez tout
à l'heure. Et là, c'est la responsabilité des adultes. Hein.
Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure justement d'éducation nationale, de responsabilité de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est aussi des politiques, je suppose. Hein.
Oui, éducation nationale, c'est pas que les fonctionnaires du ministère. Hein, c'est bien sûr.
Et c'est pour ça que je parlais d'évolution hein, au niveau politique aussi. Hein, nos hommes politiques ne sont peut-être pas les mêmes qu'il y a quelques années. Alors, je pose la question qui fâche. Hein, sont-ils à la hauteur hein. En règle générale, et alors sans citer de nom particulier, hein, parce qu'on a toujours la même chose, on en vient toujours au vindicte contre le président de la République, c'est un peu trop facile. C'est peut-être la classe politique en elle-même qui devrait se remettre en question, hein, sur tout bord confondu, peut-être.
C'est très vraiment, c'est pas pour bout en touche, c'est très variable suivant les lieux. Vous avez vraiment, enfin moi je rencontre des politiques de vraiment haut niveau, et puis il y a effectivement des politiques qui sont pas à leur place. Alors moi je combats beaucoup le jeunisme en politique, hein. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être jeune pour faire de la politique, je dis qu'on ne peut pas être jeune pour avoir certaines responsabilités, non pas jeune en expérience. Hein. Si vous avez 30 ans et que vous avez passé un certain nombre d'échelons, conseiller municipal, conseiller général, etc., etc., et que vous arrivez à des responsabilités, mais quand vous arrivez, vous êtes bombardé des responsabilités, que ce soit au plus haut niveau de l'État ou au niveau d'une mairie, tout le monde verra de quoi je parle, ça ne peut pas bien se passer parce que vous n'avez pas l'expérience, c'est tout. La vie, c'est comme une courbe d'expérience. Ça ne veut pas dire qu'il faut que des personnes de 75 ans, mais c'est-à-dire qu'à un moment, quand même, je crois quand même au parcours initiatique. C'est-à-dire qu'il faut, il faut passer par un certain nombre de responsabilités pour arriver à d'autres. On ne devient pas général sans avoir été sur le terrain, sans avoir été lieutenant, capitaine, commandant, etc. Donc à un moment, alors on peut devenir général à 40 ans, vous voyez, moi, ça, c'est... mais si on est passé avant par d'autres stades.
C'est ça, tout à
mais
fait.
On n'est pas bombardé général. Alors ça existe, hein, ça a existé dans certains pays à certaines époques, mais en général, ça ne se passe pas très bien. Voilà. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Mais il y a des gens extraordinaires. Hein, dans le monde politique, moi j'en rencontre tous les jours. Hein, là, j'étais invité avant-hier par le maire de Dolus-d'Oléron faire une conférence sur la guerre économique. Voilà, un maire qui a pris cette initiative pour sensibiliser ses concitoyens. Donc, on trouve des gens assez incroyables. Hein. On manque pas de talent, mais ils sont pas toujours aux bonnes places, par contre.
C'est ça, oui. La reconnaissance de ce côté-là. On va se faire une petite pause musicale. On parlait tout à l'heure de sous-marin, de votre balade, on va dire, en sous-marin pendant 3 jours. Alors, je vous proposais 2 chansons, tiens, liées à la mer. La première, c'est forcément Yellow Submarine, c'est les Beatles. Et la deuxième, ce serait Soldat Louis, laquelle vous choisissez. La deuxième, Soldat Louis, c'est Du rhum des femmes et de la bière, hein, donc une chanson des années 80.
Je voulais choisir une des deux. Sous-marin,
on parle sous-marin. Sous-marin. Et ben, on se retrouve.
Mais j'aime bien Soldat Louis quand même.
Bon, bah, écoutez, on se retrouve tout de suite après. Donc.
In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed unto the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Every one of us has all we need. Sky of blue.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse entre 11h et midi en direct avec notre invité Nicolas Moinet, qui est alors professeur de...
D'intelligence économique.
À l'IAE de Poitiers, tout à fait. Professeur à l'IAE de Poitiers, donc depuis maintenant quelques années. Vous avez pu voir l'évolution. Quand on regarde, en fait, je me disais que la France aujourd'hui, on parle d'une France qui était il y a quelques années. Moi, quand j'étais gamin, on nous disait qu'on était la troisième ou quatrième puissance mondiale. On a l'impression aujourd'hui de ne plus rien être, ou de peu de choses en tout cas. C'est le cas ou pas?
Non, c'est pas le cas. Alors. Qu'on baisse, c'est évident. Alors déjà, pour une raison simple, c'est la démographie. Hein. Ah, ça dépend si on prend la puissance économique.
Économique, je parlais.
Si on prend la puissance économique, de toute façon, si le classement se fait par en fonction du PIB, évidemment que lorsque vous avez des pays qui sont à 1,4 milliard d'habitants, comme la Chine, ou plus d'un milliard comme l'Inde, de toute façon, ces pays-là qui se sont développés passent devant. Mais ça, c'est pas vraiment le problème. Là où on baisse, et c'est plus embêtant, c'est le PIB par habitant. Alors, j'ai plus le dernier classement, mais on doit être dans les 25e, un truc comme ça.
Ah oui, tout de même, ouais.
Oui, donc ça, c'est déjà un peu plus bizarre. En fait, on s'appauvrit un peu. Alors, on a encore de la marge, hein, heureusement. Mais on a des choses absolument extraordinaires. C'est-à-dire, on a on a encore des entreprises, de la technologie, de très haut niveau. Voilà. On a un petit problème, c'est qu'on n'est pas très collectif. C'est-à-dire qu'on a un problème de management collectif, en fait, des compétences. Je crois que c'est l'Express de cette semaine qui fait son dossier entier sur le management à la française, qui est quand même problématique, hein, qui a un management quand même un peu trop dur, un peu trop vertical, etc. Donc ça, c'est un peu notre tare aujourd'hui. Il faudrait un peu assouplir, on va dire, les relations en France.
Voilà. D'accord.
Et je suis étonné que ce ne soit pas d'ailleurs un débat dans le cadre des retraites, parce que le problème, ce n'est pas tellement de l'âge auquel vous allez partir, qui peut être différent suivant les métiers, bien entendu, on est d'accord, hein, mais c'est aussi les conditions de travail jusqu'à la retraite. Parce que si effectivement les conditions sont mauvaises, et là je ne parle pas seulement des métiers physiquement durs, mais aussi des relations à l'intérieur des organisations, hein. Il y a beaucoup de burn-out en France, ou de gens qui prennent des antidépresseurs en raison des conditions de travail, évidemment vous n'avez pas envie de rester très longtemps.
Tout à fait.
Donc ça, c'est quand même, pour moi, c'est un des sujets majeurs aujourd'hui.
Alors c'est vrai qu'on parlait justement au niveau des retraites à une époque de pénibilité. On a l'impression qu'on botte un peu en touche. C'est vrai que certains métiers sont peut-être plus pénibles que d'autres et on a l'impression que ces gens-là ne sont pas forcément représentés. Je parle notamment des gens du bâtiment. Hein,
c'est évident qu'on ne va pas partir au même âge qu'on était dans le bâtiment, c'est évident.
Exactement.
Mais vous me parlez des sous-marins, quand vous êtes sous-marinier, vous partez après 17 ans de carrière.
Oui, voilà. Ouais,
donc ils partent en moyenne à 37 ans.
Voilà, donc
mais ce qui est normal puisque les conditions sont quand même très difficiles. Hein, quand vous êtes parti 70 jours sous la mer, loin de votre famille, à travailler H24.
Oui, hein, après, c'est une façon de voir les choses. On pourrait très bien les utiliser autrement ailleurs qu'à la retraite, les continuer à les faire travailler autrement qu'à la retraite.
Alors, les officiers de carrière, eux, ils continuent derrière, hein, bien sûr. Mais ce qu'on appelle les officiers mariniers, c'est-à-dire les sous-officiers, eux, ils font une deuxième carrière, en fait. Ils ont une retraite à taux plein à 37, 38 ans, et puis après, bah, ils vont... faire d'autres métiers.
Voilà. D'accord. Et c'est vrai que non, quand je parlais des ouvriers du bâtiment notamment, hein, on s'aperçoit que l'espérance de vie n'étant pas la même pour tout le monde, il y a peut-être, c'est là où le
bas blesse. Il y en a plein, les pêcheurs,
oui, voilà,
les chauffeurs routiers. Et non seulement on peut... Il y a quand même le sujet majeur aujourd'hui en France, vous le savez, c'est le narcotrafic.
Oui.
Et on sait que ces professions-là, ça a doublé en 8 ans la consommation de stupéfiants et notamment de cocaïne dans les professions physiquement difficiles. Ça, c'est un sujet, effectivement.
Voilà. Tout à fait, ouais. Des sujets sur lesquels on vous interroge quelquefois au niveau des étudiants, c'est assez général. On ne parle pas que d'intelligence économique hein, quand on est spécialiste des...
Alors en ce moment, c'est beaucoup la géopolitique, évidemment.
Hein, oui,
parce
voilà.
qu'on peut dire que le monde est un peu fragmenté. Donc...
Exactement. On devait donc avoir Elisabeth Morin-Chartier, hein, qui est donc au niveau du comité d'éthique hein, de la Commission européenne. Vous êtes justement, vous, quelquefois appelé par la Commission ou par jamais?
Non, pas par la Commission européenne. Par l'État, oui. Par l'État français,
ouais.
Mais non, pas par la Commission européenne.
L'idée, c'est de me dire qu'aujourd'hui, la France, on parle de notre beau pays, et sans l'Europe, on est quoi? On est capable aujourd'hui de se débrouiller sans l'Europe? On l'utilise suffisamment, puisque quand vous étiez ici avec Elisabeth Morin-Chartier, vous disiez justement qu'on n'utilisait pas assez les rouages de l'Europe, me semble-t-il.
Non, on a un paradoxe en France, c'est qu'on est très européiste, diraient certains, c'est-à-dire qu'on est très... toujours à dire l'Europe, l'Europe, l'Europe. Quand on ne veut pas régler un problème, on dit c'est l'Europe qui va le régler, mais on n'est pas assez présent dans les institutions européennes. On ne fait pas assez de lobbying. Il y a une faiblesse de la présence de beaucoup, malheureusement, de députés dans les commissions. Donc ça, c'est... Oui, on ne se sert pas assez de l'Europe dans le bon sens du terme. Hein? Y a beaucoup d'entreprises ou d'organisations qui ne profitent pas des fonds européens, par exemple. par manque de compétences, parce qu'il faut quand même des compétences pour aller chercher des fonds européens. Donc on est déficitaire, donc on se plaint en disant on donne plus d'argent à l'Europe qu'on en récupère, mais c'est aussi parce qu'on ne sait pas toujours le récupérer.
Exactement, il y a des, je suppose, des organismes qui sont faits pour ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas, on a plus la facilité de se plaindre, nous en France, plutôt que d'aller chercher les éléments.
On est plutôt pas mauvais, et je me mets dedans, évidemment.
Oui, bien sûr.
C'est un peu une culture. Alors après, se plaindre, ça peut avoir un avantage, c'est que se plaindre, ça peut permettre aussi de dire il faut changer. Le problème, c'est quand on se plaint, mais que ça ne change rien derrière, là... Voilà, c'est un peu de l'impuissance. Voilà. Mais pour revenir à votre question initiale, non, la France reste une puissance. Mmh. On est une puissance nucléaire, on a des industries extraordinaires. Bon, je vous ai parlé de Naval Group avec les sous-marins, mais bon, il n'y a pas que Naval Group. J'ai eu la chance donc, de faire l'IHEDN, donc l'Institut des études de la défense nationale. J'ai visité l'usine de montage Rafale à Bordeaux, Mérignac. Je suis allé chez Ariane, où on fabrique... notamment le M51, le laser mégajoule qui est du côté de Bordeaux aussi, qui est en fait, il n'y a que deux pays dans le monde capables de le faire, c'est-à-dire c'est des faisceaux laser qui viennent créer des simulations d'explosions nucléaires, on n'a plus besoin d'en faire. On a une technologie, on a des ingénieurs de très très haut niveau en France. On a un système aussi d'enseignement supérieur qui est plutôt bon, voilà. Mais on a beaucoup de gens qui partent. J'ai un de mes étudiants en formation continue qui a fait son mémoire là, sur les Français de l'étranger. Les chiffres font frémir. Non pas parce qu'il y a des Français étrangers, c'est pas ça qui fait frémir. C'est la masse.
C'est la masse, oui.
Alors les chiffres varient, mais on est entre 2 et 3 millions quand même.
D'accord.
Voilà. Des personnes qui sont parties parce qu'ils ne trouvaient pas les conditions pour.
Voilà, et qui faisaient les plus diplômés, on va dire, pratiquement.
Beaucoup, ah oui, dans la Silicon Valley, au Royaume-Uni. Oui. Alors c'est normal que des diplômés partent dans les pays étrangers, mais... Mais c'est un peu la masse qui questionne, hein. C'est ça en fait. Hein.
Et quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, le président propose aux Américains de venir en France, hein, on le voyait il y a quelques semaines justement, d'accueillir des scientifiques américains, on a l'impression que c'est un peu un miroir aux alouettes, puisque vous me dites qu'il y a 6 millions de Français qui sont partis à l'étranger.
Bah, dans le même temps, si vous voulez, ils contraignent les budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc c'est un peu paradoxal. Aujourd'hui, on a des coupes budgétaires qui sont quand même assez importantes hein, dans les universités. On est bien placé pour vous en parler. Mmh. Et puis, on ne joue pas dans la même cour. Alors, bien sûr, il y a l'effet Trump, mais il ne faut pas rêver. Ça ne va pas durer. Et les universités américaines ne sont pas si malheureuses que ça. C'est toujours bon, les ordres de grandeur, quand même. Hein, parce que si vous prenez Harvard, qui est la première université mondiale au niveau des classements, et si vous prenez l'université de Poitiers, alors, vous allez me dire, on ne va pas comparer Harvard et Poitiers. Bah, c'est la même taille. C'est 30 000 étudiants.
D'accord.
Je crois que c'est 1500 enseignants-chercheurs à peu près à l'Université de Poitiers, 2000 à Harvard, il y en a un petit peu plus. L'Université de Poitiers, c'est en gros 350-400 millions d'euros de budget, après ça. Harvard, c'est, suivant les chiffres et les années, entre 2 et 4 milliards.
10 fois plus, quoi.
2 et 4 milliards, avec des réserves. Alors nous aussi, on a des réserves, mais on ne peut pas les utiliser. Mais Harvard, ils ont des vraies réserves, ils ont 50 milliards de dollars de réserves. Donc si vous voulez, à partir de là, vous donnez... Je pense que la présidente de l'université, Virginia Val, serait d'accord avec moi. Vous nous donnez 2 milliards à l'université de Poitiers. Mm-hmm. Bon, je pense qu'on va faire des trucs.
Ah bah beaucoup, oui,
voilà.
Certainement. Ouais.
L'université de Poitiers fait des choses incroyables d'ailleurs déjà. Moi, j'apprends à mes étudiants qui ne savent pas qu'à l'université de Poitiers, on redonne vie aux morts. C'est-à-dire qu'il y a un labo avec le CHU qui remet en fonctionnement des cadavres pour que des chirurgiens du monde entier viennent se former. Les seuls à faire ça dans le monde.
Ah oui, en effet.
Voilà.
Oui.
Mais je donne un exemple. Oui, oui. Il y a des choses extraordinaires. Mais il y a un système. Alors, on a une bureaucratie terrible. C'est très lourd. Tout est compliqué. Je crois que c'est le patron de Total qui expliquait à l'Assemblée nationale il n'y a pas longtemps que quand il veut faire un projet, développer un projet, une nouvelle usine, aux États-Unis, c'est 24 mois. Comment dire, donc c'est en Allemagne, c'est un peu plus, et en France, c'est le double ou le triple. Tout est long, tout est compliqué. Voilà, il faut gagner en agilité. Hein, c'est ce qui nous manque le plus.
D'accord.
C'est pas un problème de compétence, c'est un problème d'agilité organisationnelle.
On a quand même quelques raisons d'être d'espérer en fait. Hein,
Bon, oui, tant qu'on est vivant.
Exactement.
La situation est grave, mais pas désespérée. Mais elle est quand même assez grave. La situation mondiale, la situation économique de la France n'est pas bonne. Voilà.
Avec une dette qui est énorme.
La dette, le déficit de la balance des paiements, le déficit du commerce extérieur. Le PIB par habitant, la désindustrialisation, même s'il y a une volonté maintenant, voilà. Le prix de l'énergie, alors qu'on a du nucléaire et que normalement on devrait payer l'énergie moins cher. Les prêts garantis par l'État, le PGE a été une catastrophe, ça a été mal pensé, donc il est en train d'envoyer des dizaines de milliers d'entreprises dans les tribunaux de commerce. Il faut rembourser en 5 ans. Mmh. Les autres pays ont mis 10 ans ou 20 ans de remboursement. Non, il y a des choses qui ne vont pas. Mais tout ça est parfaitement gérable. Sans faire de politique politicienne, mais le blocage aujourd'hui, il est politique. Il est institutionnel.
D'accord.
Voilà, ça, c'est pas une question de couleur politique.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Que le système est bloqué institutionnellement. On ne voit pas très bien comment on peut sortir du truc pour l'instant, mais on en sortira, je pense. Hein.
Certainement. Et ce qui m'étonnait, c'est une déclaration de Jacques Attali, il y a quelques mois maintenant, qui parlait au niveau de l'Europe, lui, par contre, qui s'imaginait que dans quelques années, l'Europe pouvait être la première puissance économique. C'est quelque chose qui pourrait être semblable, enfin vraisemblable. Ou, on part de loin, on a l'impression aujourd'hui qu'on est dominé par les Américains et par les Chinois.
Non, honnêtement, moi, j'y crois pas. On n'a pas les capitaux, on n'a pas la technologie, on n'a pas la démographie non plus.
Oui, c'est vrai qu'on est sur la pente.
Si on se compare, oui. Alors, vous me direz la Chine aussi. Mais enfin, OK, mais ils sont à 1,4 milliard.
Oui, voilà, tout à fait. Oui.
L'Europe, j'ai plus les chiffres en tête. On est à entre 400 et 500 millions de citoyens européens, je pense.
Ah, européens,
comme ça.
Tout à fait.
Oui. Donc, on n'est quand même pas... Et puis surtout, l'Europe, c'est pas, il n'y a pas une unité stratégique. C'est pas vrai. C'est une instance avec... Entre la Hongrie de Viktor Orban et d'autres pays qui pourraient tomber un peu dans la même logique que la Hongrie, c'est-à-dire être plutôt pro-russe ou pro-chinois, et puis la France ou d'autres pays, on ne peut pas dire qu'il y a une unité stratégique.
Tout à fait, ouais.
Donc on peut toujours appeler l'Europe l'Europe parce que ça permet de ne pas régler les problèmes, mais ça ne veut pas dire que l'Europe n'est pas importante. Ça doit être un bouclier, il faut bien sûr l'utiliser. La force quand même réside dans les nations, hein, encore.
D'accord, bon, écoutez, on va se faire une deuxième pause musicale, hein, c'est Horos, alors on reviendra tout de suite après, hein, qui nous chante Adieu, et on revient tout de suite après cette petite pause pour continuer à parler ensemble, à tout de suite.
Mais quitte à se décevoir, coupons court au débat et disons-nous adieu. Je suis belle en au revoir, ne me reproche pas ce que je fais de mieux.
Ne me dis pas de me taire, je t'éblatère ou tu te plains. Dis-moi comment tu vas faire pour faire croire que tu vas bien. Je veux l'urgence, je veux le droit de croire que Dieu n'a pas Dieu que pour moi. Quand on m'attend, je dis bye et je m'en vais gentiment. Mais quitte à se décevoir, coupons court au débat et disons-nous adieu. Je suis belle en au revoir, ne me reproche pas ce que je fais de mieux. Que ton jeu silencieux, car quitte à se décevoir, je me décevrai moi, c'est ce que je fais de mieux. Hey.
Ne me dis pas que j'ai tort, j'ai compris que j'ai pas gagné. Quand je te dispute et tu t'endors, comme si tout allait s'arranger.
Avec le temps, faut plus rien vouloir. Je compte jusqu'à 100 et je tire au hasard dans les murs de chez toi. Même quand je mens, tu m'attends sagement dans le blanc de tes draps. Et disons-nous adieu. Je suis belle en au revoir, ne me reproche pas ce que je fais de mieux. Tes combats de regard feront moins de dégâts que ton jeu silencieux. Car quitte à se décevoir, je me décevrai moi, c'est ce que je fais de mieux. Hey.
J'ai pas compris le comment ni le pourquoi. Sous-estimer l'honnête et puis le courtois. Ton utopie de l'amour, elle ne me convient pas. Ton cœur en aller-retour, bien loin de mes deux bras. J'ai pas compris le comment ni le pourquoi. Être méchant, je le serai pour toi. Quoi, j'ai changé à mon tour et ça ne te convient pas. J'entends le compte à rebours.
Mais quitte à se décevoir, coupons court au débat et disons-nous adieu.
Je suis belle en au revoir, ne me reproche pas ce que je fais de mieux. Tes combats de regard feront moins de dégâts que ton jeu silencieux. Car quitte à se décevoir, je me décevrai moi, c'est ce que je fais de mieux. Hey.
Nous sommes toujours sur AOC 103.7 et les chemins de traverse en compagnie de notre invité Nicolas Moinet, donc qui est professeur en intelligence économique à l'IAE de Poitiers, qui a écrit un livre d'ailleurs, hein, je le rappelle, donc c'est de la compétition à l'affrontement, qui est chez VA Édition, me semble-t-il.
Exactement, valeur ajoutée édition, voilà, VA Édition.
Ce livre aborde énormément de thèmes. Hein. On parlait tout à l'heure de triptyque, hein, un triptyque qui est de la de compétition, de contestation et d'affrontement, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus
Alors ça, c'est essentiel. Alors je vais faire simple, évidemment, ce n'est pas très compliqué. Mais l'idée est la suivante, c'est qu'on a les mauvaises lunettes. C'est-à-dire qu'on a... Parce que le monde a changé. On a été tous formés, formatés par le triptyque qui était classique, c'est paix, crise, guerre. Voilà. Si on est en guerre, on n'est pas en paix. Si on est en paix, on n'est pas en guerre. Tout le monde comprend. Puis entre les deux, il y a des moments de crise. Et chacun a son rôle dans la paix, dans la crise et dans la guerre. Et voilà. Début de l'année, d'ailleurs, le Premier ministre suédois, vis-à-vis de la Russie, a dit on ne comprend plus, on n'est ni en paix ni en guerre. Et c'est normal, le monde a changé. Et donc c'est le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, qui dès 2020 à l'Assemblée nationale dit il faut changer de grille de lecture. L'OTAN s'est un peu moqué au début de ça, puis finalement il est en train d'adopter comme toujours, parce que c'était les Français qui proposaient évidemment. Voilà. Et donc il dit non, il faut penser en termes de compétition, contestation, affrontement. Alors la première idée qu'il faut retenir, je vais expliquer chaque terme, mais c'est que, alors bien sûr, quand on parle de manière linéaire, donc on est bien obligé d'en mettre un devant l'autre. Mais en fait, il n'y a pas de linéarité, ça ne se succède pas. C'est trois états, en fait, qui vivent simultanément.
D'accord.
Bien sûr, à des degrés divers, suivant les pays, suivant l'état d'opération, suivant, etc. Donc on est en permanence en compétition, en affrontement et en contestation. Alors là, on va commencer par l'affrontement. L'affrontement, tout le monde voit ce que c'est. Le mot-clé de l'affrontement, c'est détruire. Je vais détruire. Pas nécessairement tuer, ça peut être détruire des objectifs matériels, ce que fait Israël notamment en ce moment.
Oui, ce que fait la Russie aussi en Ukraine.
Ce que fait la Russie avec des sabotages, des centrales électriques, des banques, etc. Ça peut être détruire aussi par des moyens autres que militaires. Ça peut être détruire par du hacking, par exemple, ou autre. Voilà. Donc ça, c'est l'affrontement. Dans le monde économique aujourd'hui, l'affrontement, il existe, notamment dans un domaine qui est les semi-conducteurs. Et le livre, d'ailleurs, qui a eu le grand prix en 2022 du Financial Times, du New York Times aux États-Unis, s'appelle « Chip War ». Ça veut dire « La guerre des semi-conducteurs ». Voilà, c'est pas par hasard. C'est Trump qui l'avait lancé dès 2019 contre la Chine. Et je rappelle aux auditeurs, mais ils le savent sûrement, que le plus gros fabricant de semi-conducteurs, du moins les puces les plus avancées technologiquement, se trouve à Taïwan. Hein, c'est TSMC. Voilà.
D'où l'intérêt peut-être pour la Chine
Oui, ça fait partie. De toute façon, la Chine veut récupérer Taïwan de toute façon, mais voilà. Mais enfin, c'est un intérêt supplémentaire. Donc ça, c'est l'affrontement. Vous avez à l'autre bout, en intensité, même si c'est permanent, la compétition. Alors la compétition, c'est pas du tout la concurrence. La concurrence sur le marché, juste à côté de nous, là, il y a des concurrences entre les différents vendeurs. Mais enfin, chacun va s'enrichir, va être content, plus ou moins, évidemment. Mais la compétition, non. La compétition, c'est comme dans le sport. Sur un ring de boxe, il y en a un qui va tomber au tapis. C'est une compétition.
D'accord.
Voilà, il y aura des matchs nuls, mais enfin, en général, il y en a quand même un qui gagne. Donc, et le mot-clé, là, c'est pas détruire, c'est modeler. C'est-à-dire que l'idée, c'est de vous façonner pour que vous alliez dans le sens de mes intérêts. Alors, c'est par exemple, entre autres, ce qu'on a appelé le soft power. Hein, c'est-à-dire, c'est tous ces systèmes d'influence par la langue, par les technologies. Hein, vous ne pouvez pas ne pas utiliser de technologies américaines. Moi, je suis étonné par le nombre de mots américains qu'on utilise couramment maintenant, etc. C'est une vraie stratégie d'influence qui fait qu'on finit par penser avec les grilles de lecture. En fait, on inocule nos grilles de lecture. Ça peut être des normes, ça peut être des classements, ça peut être des règles. Les universités françaises, il faut être dans le classement de Shanghai. Je ne sais pas pourquoi il faut y être, mais il faut y être. Et donc, on prend des décisions politiques par rapport à ça. Donc, en fait, on est déjà dans une défaite stratégique. Alors, tout le monde se moque du classement de Shanghai, à part les politiques. Voilà. Donc, même les Chinois en sont sortis, alors que c'est eux qui l'ont créé, le classement de Shanghai. Donc, ça, c'est la compétition. Et alors, si je peux vous donner un exemple remarquable, c'était la voiture électrique. C'est-à-dire que les Chinois ont mis en place une stratégie d'influence pour, grâce à leurs alliés européens, parce qu'ils ont beaucoup d'alliés européens, parce qu'ils financent un certain nombre d'infrastructures en Europe, ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie. Ils ont, je vous rappelle, acquis un certain nombre de ports en Europe.
Hein, oui, notamment Pirée,
Grèce, Gênes, Trieste, Hambourg, et on pourrait poursuivre, hein, qui sont chinois, en partie ou totalement chinois. Donc il y a beaucoup de pays européens qui sont redevables à la Chine. Hein, ils ont, parce qu'ils ont investi dans ces pays. Et donc, ils ont fait voter cette fameuse règle de l'interdiction des véhicules non électriques, donc des véhicules thermiques, en 2035, sur le parc neuf, qui évidemment a précipité l'industrie européenne dans la course à la voiture électrique. Mais on était en retard. Parce que les Chinois, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'ils se sont lancés dans la voiture électrique. Et on a pensé, avec l'arrogance occidentale, qu'on allait rattraper notre retard dans les batteries. Et on n'y arrive pas.
On a
mis des gigafactories dans le Nord, 50% des batteries sont défectueuses, c'est une catastrophe industrielle, etc. Donc là, vous avez les BYD, hein, qui est le principal constructeur chinois, qui commence à s'installer un peu partout, on le voit, hein, à Poitiers ou ailleurs. Il va vous proposer des voitures électriques moins chères, de meilleure qualité. Voilà. Donc évidemment, ça c'est la compétition. Et puis entre les deux, il y a la contestation. La contestation, donc, c'est ni modeler ni détruire, c'est disloquer. C'est-à-dire qu'on va utiliser vos contradictions, vos faiblesses, vos failles pour vous disloquer. C'est, par exemple, les failles de la société française. Donc les failles existent. Hein. Vous avez des manifestants ou un malaise dans les dom-toms en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Mm-hmm. Donc ça existe. C'est pas créé de toutes pièces. Mais des pays vont en profiter pour livrer des armes, par exemple, pour que les manifestants deviennent dangereux. S'ils deviennent dangereux, vous envoyez des forces de police et de gendarmerie, évidemment, il y a des morts. Et comme il y a des morts, ça ne fait que renforcer l'opposition à la présence. Voilà. Donc, ça, c'est un pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan, hein, qui a même fait un sommet à Bakou, qui a invité tous les dom-toms. Donc, la Nouvelle-Calédonie, la Réunion, la Guyane, etc., les Antilles, pour dire qu'il faut vous émanciper de la France.
Oui, il y a vraiment une stratégie de ce côté-là.
Il y a une stratégie, donc l'Azerbaïdjan, vous avez bien compris, c'est la Russie.
Bien sûr.
Voilà, la France est la deuxième zone maritime du monde. Voilà. On n'a pas une marine nationale, d'ailleurs, qui a suffisamment de moyens, elle devrait en avoir plus, par rapport au fait qu'on est la deuxième puissance maritime du monde. Enfin, la deuxième zone économique du monde. On n'est pas vraiment la deuxième puissance maritime, d'ailleurs. Mais bon, donc, voilà, vous voyez, c'est ce triptyque, donc compétition, contestation, affrontement. Donc, la guerre, elle est permanente et globale. Évidemment, pas avec la même intensité, bien entendu.
Bien évidemment.
Les chars russes ne sont pas à Paris.
D'accord.
Mais la Russie attaque la France. Il y a eu les fameuses affaires des punaises de lit, hein, c'est la Russie, on le sait.
Ça fait juste avant les Jeux Olympiques.
Oui, bah, ça fait baisser le tourisme, ça a un impact. Il y a les cercueils devant la Tour Eiffel, il y a les étoiles de David.
Peut-être les pylônes électriques.
Peut-être certains feux de forêt, on ne sait pas, puisque 90-95% des feux de forêt sont criminels. Il y a bien sûr des pyromanes, hein, mais il y a peut-être aussi, mettre le feu à une forêt, ce n'est pas très compliqué. C'est un message que vous envoyez aux dirigeants pour dire attention, on peut détruire votre patrimoine. Vous livrez des canons César à l'Ukraine, bah, vous êtes pas en guerre directe contre nous, ce qu'on appelle les guerres indirectes, hein, les guerres par procuration, hein, on appelle ça les guerres par proxy. Voilà. Donc on vous tape et on fait savoir que. Voilà. C'est malheureusement le monde actuel, alors ça a toujours existé, hein, mais disons que ça a pris de l'ampleur.
Et la France, la position de la France dans ce domaine, parce que je suppose que si on est attaqué, on est capable de se défendre, puis d'attaquer aussi, on ne doit pas être non plus tout blanc.
Alors on est très réactif quand même, hein. On l'a vu en Afrique, si vous voulez, où on est quand même sorti du Burkina Faso, du Mali, du Niger, notamment sous l'action du groupe privé de mercenaires Wagner.
Oui.
Donc il y a eu des tentatives quand même, par exemple, de déjouer une manœuvre de Wagner qui était de faire croire que la France avait fait un charnier dans le camp de Gossi au Mali. Bon, la DGSE a envoyé un drone qui a filmé Wagner en train de faire cette manœuvre. Donc on a pu se défendre en disant « c'est pas nous ». Néanmoins, on est quand même sorti. Et Wagner, bien sûr, prend des positions dans ces pays-là pour s'accaparer les mines d'or ou autres ressources, évidemment. Hein. Donc on est plutôt défensif. On a du mal à être offensif aujourd'hui. Ça a été une culture française, hein. Historiquement, au 19e et 20e siècle, et il y a un certain nombre de réticences aujourd'hui, surtout au niveau politique, hein, pas tellement au niveau des gens sur le terrain qui sont parfaitement capables d'être offensifs, donc on n'est pas assez offensif aujourd'hui.
Ça a peut-être pris fin dans les années 80 avec l'affaire des faux opus et Poutou-Ange, non ?
Exactement. Ça a fait partie de la bascule, oui, et donc pour rappeler l'histoire du Rainbow Warrior, oui. C'est-à-dire qu'on a effectivement sauté le bateau de Greenpeace dans le port d'Auckland, donc dans un port d'un pays ami, puis il y a eu un mort. un photographe qui était revenu chercher normalement de vieilles personnes. Donc c'était effectivement un truc totalement rocambolesque, qui est mal préparé, mal fait. Et ça a beaucoup marqué les politiques qui ont peur effectivement de donner leur feu vert à certaines opérations spéciales.
C'est ça.
Au risque que ça se passe mal. Mais les autres le font, hein, donc voilà. Est-ce qu'on pourra l'éviter longtemps ? Ça, c'est pas sûr.
C'est ça. Nous, on est, alors, je n'allais pas dire amis avec certains pays, mais c'est vrai qu'on a dans nos
amis... Les pays n'ont pas d'amis, comme voilà, De Gaulle, hein, ils n'ont que des intérêts. On a des alliés.
Et encore que ces alliés-là, en fonction des occasions...
En fonction de la compétition, quand c'est un affrontement, c'est pas les mêmes. Sur l'affrontement, par exemple, les États-Unis sont des alliés, on ne s'affronte pas avec les Américains. Ouais. Sur la compétition, on ne peut pas dire que ce soit tout à fait des alliés. Ils nous rachètent des entreprises, ils font échouer la vente des sous-marins à l'Australie. Il n'y avait pas que les Américains, il y avait aussi d'autres pays, notamment européens. Mais voilà, on est dans le multidimensionnel. Voilà.
Et même au niveau européen, on ne peut pas compter sur tous nos alliés en priorité.
L'Europe, c'est un lieu de délibération avec des intérêts stratégiques différents. On arrive à trouver des points de concordance et des politiques communes, et c'est très bien. Et puis il y a d'autres domaines où l'exemple de l'énergie est un très bon exemple. Il y a des pays dont l'énergie, comme le nucléaire, est indexée sur le gaz, qui est le cas de la France. Ce n'est pas le cas d'autres pays comme l'Espagne qui sont retirés. Voilà. Nous, on fait ça parce qu'on ne veut pas courroucer l'Allemagne, parce qu'on a beaucoup de dettes. Voilà. Ça, c'est le problème majeur aujourd'hui, hein, c'est la dette.
On a plus de 3 000 milliards
de dettes. Oui, on a plus de 3 000 milliards. Je n'ai pas regardé les chiffres récemment. Ouais, on doit être même à 3 300 ou... 3 400 milliards. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas se mettre l'Allemagne à dos. Or, l'Allemagne, pendant des décennies, surtout sous Gerhard Schröder et Angela Merkel, là, ça a peut-être changé, a tout fait pour que la France n'ait pas l'industrie nucléaire, n'ait pas l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Parce que l'électricité pas chère était un des rares domaines où on avait une compétitivité. On ne l'a pas sur les salaires, évidemment. Et l'Allemagne, à l'époque encore récente, jusqu'à la guerre en Ukraine, son modèle économique était très simple, c'est j'achète le gaz à la Russie, d'où Schröder qui travaillait chez Gazprom, hein, l'ancien chancelier allemand. Je l'utilise donc pour mon industrie et je vends mes produits, notamment à la Chine ou à d'autres pays. Voilà, donc la France, de ce point de vue-là, il fallait que son nucléaire se développe pas. Et ça a bien marché, en prenant appui, bien sûr, sur des gens qui sont anti-nucléaires et qui ont le droit de l'être, hein, d'ailleurs, en France. Mais il y a eu un certain nombre d'actions, d'influences de l'Allemagne pour que les anti-nucléaires soient parfaitement présents, aussi bien en France qu'au sein de l'Union européenne.
Oui. Aujourd'hui, l'état du nucléaire, justement, on était deuxième ou troisième puissance nucléaire à une époque.
On remonte, on essaye de revenir, en fait. On détricote et on retricote. Hein. Ça, c'est une spécialité française.
C'est
toujours plus embêtant, évidemment, parce qu'on a perdu du savoir-faire, des compétences. Lorsqu'il a fallu remettre à niveau les centrales il y a quelques années, vous vous souvenez, il a fallu faire appel à des soudeurs américains.
Oui, tout à fait. Ouais.
Soudeurs américains, qui sont payés très très cher, hein, les salaires... je crois que c'est entre 5 et 10 000, c'était entre 5 et 10 000 dollars par mois.
Hein. Ah, tout de même, ouais.
Ah bah oui,
ouais.
Parce que d'abord, il fallait les faire venir, ils étaient experts. Mais donc on revient, mais on a perdu tout un pan de l'industrie nucléaire. Donc il faut le remettre à flot, voilà, parce qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, c'est comme ça.
C'est le principe de la mondialisation, hein, de faire venir des ouvriers de l'étranger. On va se faire une dernière pause musicale, on revient tout de suite après. C'est Michel Buller, c'est un Suisse, qui nous chante Mondialisation, et on revient tout de suite après. C'est une belle parole, écoutez-les.
Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain. Ça fait pas mal de temps quand on regarde en arrière. Qui nous promettent la lune, les experts, les malins, tous les fins, les finaux qui dirigent la terre. La mondialisation, la globalisation, là qu'on n'entend plus que ça, jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons, après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh bien on va rien venir avec Marcel et Roger, l'un qui est des cadres et l'autre petit paysan moyen, qu'on a restructuré, fusionné, redéployé, et qui se retrouvent égaux maintenant qu'ils sont plus rien. Marcel dit que sûrement là on est mal placé, qu'ailleurs il y a du soleil, des gens heureux qui rient. Mais oui, il a vu ça l'autre jour à la télé, mais pourquoi ont fermé l'école et l'épicerie? Il dit que c'est dérisoire ce qu'arrive dans un patelin, Marcel, qu'il faut tout voir à l'échelle planétaire, et qu'il y a des pays où les exclus vont bien, où les mecs sous-payés, ils ont la pêche d'enfer, où le quart monde y bord la vie à belles dents. Comment ? Il a plus de dents, c'est ce que je pensais, c'est clair. Marcel y pète les plombs depuis qu'il a plus ses champs, et qu'on a transformé ses vaches en hamburgers. Roger dit plus rien, ça fait 10 ans qu'il chôme, qu'il suit des séminaires, des formations, des stages. À poursuivre du vent, il ressemble à un fantôme, à poney chez Picrate, il fait 10 fois son âge. C'est que du pipeau tout ça, montrez-moi l'embellie. Les rares qui ont du travail doivent se tuer au boulot. D'accord, ils ont des portables web qui les relient, mais pourquoi ils ont fermé la poste et le bistrot? L'autre jour, j'entendais un monsieur de mon cul, ou de mes couilles qui me gratte, ou de n'importe quoi, dire dans mon transistor, arrogant, convaincu, sa mondialisation, ça crée des emplois. Ouais, putain, j'ai vu rouge, j'aurais voulu la voir, là juste en face de moi, pour lui demander où, pour lui demander quand, et répondre au connard, t'as vu qu'on embauchait, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'il parlait de ses enfants qu'on enchaîne là-bas dans le tiers-monde, dans ces pays si tristes qui bossent 12 heures par jour pour un dollar à peine, tandis que leurs frangines se vendent à nos touristes. Là, leur projet retour deux siècles en arrière. Et pas qu'au Bangladesh, tu parles jusqu'ici. Chacun pour soi, pour tous, de minables salaires. Mais pourquoi ont fermé l'usine et la Syrie? Et comme ils parlent fort dans la rue, dans le journal, on finirait par croire au fond qu'ils ont raison. Les pauvres deviennent plus pauvres, déjà ça devient banal. Y a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambo. L'or me dit plus que demain, on va raser gratis. On nous l'a déjà fait, le coup de l'avenir radieux. Et des lendemains qui chantent au bon vieux temps jadis. V'là qu'aujourd'hui, ça s'annonce pas mieux. Non, je ne déconne pas, regardez rien que chez nous. Dans ce petit bled qui était blanc, suisse, quoi, normal. Tout vient tellement privé qu'on sera privé de tout. La preuve, ils vont fermer la gare et l'hôpital. Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain.
Nous sommes toujours sur REC 103.7 et les chemins de traverse pour cette dernière partie d'émission en compagnie de Nicolas Moinet qui est professeur en intelligence économique à l'IAE de Poitiers, donc qui se situe dans le bas de Poitiers, hein, pas loin du Clin certainement, non?
Exactement.
Quel endroit, vers le palais de justice ou je situe?
Oui, c'est pas très loin du nouveau palais de justice, c'est à côté du rectorat.
D'accord. Ah bah écoutez, au niveau, on parlait d'intelligence économique, on parlait de la position de la France. C'est vrai qu'on a l'impression, nous, de faire preuve d'un peu d'angélisme par rapport aux autres. D'angélisme, pas que. On a l'impression surtout de rester en arrière et de ne pas chercher à trouver de solution pour avancer. Qu'en est-il véritablement?
C'est un angélisme de façade, en fait. Enfin, ça dépend de qui on parle. Si on parle des dirigeants qui disent on a été naïfs, on a été trop... Non, ils ne sont pas naïfs parce qu'ils sont informés. En fait, on a un problème, c'est qu'on est des polytraumatisés. Et ce qui peut se comprendre, on est polytraumatisés des deux conflits mondiaux. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même deux conflits mondiaux sur notre sol.
Hein? Tout à fait, oui.
Alors le deuxième, on dirait, a été plus rapide. Alors le deuxième traumatisme, c'est surtout qu'on a très vite arrêté de se battre. Hein? Puisqu'on aurait pu continuer le combat. D'ailleurs, on avait gagné des batailles... commencer par De Gaulle, voilà, et avant qu'il parte à Londres, je parle, mais on a décidé d'arrêter de combattre et de pactiser avec l'ennemi. Alors c'était la deuxième fois d'ailleurs, hein. Même la troisième fois, puisqu'on oublie, 1815, après Waterloo, on pactise avec l'ennemi, hein, voilà, 1870,
tout à fait, oui.
Et puis 1940. Donc on est des polytraumatisés, il y a eu la décolonisation aussi,
oui.
Où on s'est battu, hein, les militaires sont battus, on était assez offensifs, mais évidemment, ça s'est mal passé, voilà. Et donc, plus des épisodes, vous l'avez dit, comme le Rainbow Warrior ou d'autres, qui font qu'effectivement, on s'est un peu laissé endormir, et puis on a eu des nouvelles générations aussi, on a eu des générations qui n'avaient pas connu la guerre, donc qui n'ont pas toujours une vision des rapports de force. Hein, quand vous prenez un politique français, un politique israélien ou américain, américain, israélien ou même britannique, ils ont fait l'armée souvent, ou ils ont fait un passage. Voilà. Alors que nous, c'est plus le cas. Donc ça fait qu'on n'a pas cette culture des rapports de force et du combat, en fait. Il nous manque collectivement. Hein.
Oui,
vous avez
fait,
des
oui.
gens qui l'ont, bien sûr, en France.
Bien sûr, heureusement. Oui.
Mais souvent, on les empêche d'agir. Moi, j'invite à lire le livre d'Arnaud Montebourg, qui s'appelle « L'engagement », qui explique comment ça se passe à Bercy. Et il dit, y a beaucoup de gens qui ne veulent pas prendre de risques, parce que prendre des risques, c'est mauvais pour la carrière.
C'est ça, aujourd'hui, on est plus carriériste que...
Oui, parce que le système le permet aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'à une époque, le système donnait des possibilités aux gens de prendre en fait, des risques, d'oser. Là, je parle de la haute fonction publique.
Bien sûr.
Et couvrait les gens qui prenaient des risques. Aujourd'hui, les systèmes se couvrent.
Mm-hmm, c'est ça.
Chacun se couvre. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai eu beaucoup de mon entourage qui était dans l'éducation nationale. Ça a été le lent affaissement, on va dire, du soutien, en fait, de l'institution aux enseignants. Il suffit d'écouter tout ce que vous dites les enseignants aujourd'hui, quand il y a un problème avec un élève, quand il y a ceci, quand il y a cela, l'institution ne les soutient plus.
On réagit après le drame.
Ah non, mais on ne soutient pas. C'est-à-dire qu'on étouffe. On étouffe les problèmes. D'accord. Voilà, donc il ne faut pas s'étonner qu'ensuite, ça se passe mal. Donc, il faut se ressaisir, en fait.
La solution, c'est quoi, on peut se ressaisir.
Hein. Dans l'histoire, on s'est ressaisi. Hein.
C'est quoi? C'est un homme fort? La solution, c'est... Parce qu'on est dans une démocratie, c'est vrai que ce n'est pas évident. On se dit aujourd'hui, pratiquement, que les pays non-démocrates réussissent mieux que les autres. Hein. Est-ce que la solution, c'est pas ça? Et c'est ce qui fait peur, d'ailleurs.
Ils réussissent mieux. Moi, je suis toujours étonné. Par exemple, si on parle de la Russie, la Russie, c'est quand même... un pays qui voulait faire une opération spéciale qui a complètement été ratée, et puis ensuite qui aujourd'hui a du mal à dépasser le Donbass. Donc on ne peut pas dire que l'armée russe, l'attaque qu'ils viennent de subir de la part de l'Ukraine avec les drones, c'est quand même la preuve qu'en fait ils sont assez faibles, que leurs services de renseignement ne sont pas si puissants que ça. Donc évidemment, ça donne toujours l'impression à un pays autoritaire qu'il est fort, parce qu'évidemment, il y a une façade. Mmh. C'est la façade qui est ripollinée. Mais ça, j'y crois pas. L'homme fort, ça peut donner un élan, mais globalement, c'est un problème collectif. Et d'ailleurs, quelle que soit la prochaine personne qui sera élue en France, si on a le même système institutionnel et les mêmes problèmes politiques à l'Assemblée nationale, ça ne va pas régler grand-chose. Hein.
Oui, tout à fait. On aura les mêmes.
Donc
les mêmes
en fait,
divisions.
Je ne crois pas. Je pense que c'est un vrai problème collectif. Alors, vous me direz comment le résoudre. Ça ne va pas être très optimiste, mais c'est à la fois optimiste et pessimiste. On va le résoudre le jour où on sera au pied du mur.
C'est ça, tout à fait.
On aura une crise grave, mais c'est l'histoire de toutes les sociétés. Hein. Mm-hmm. Hein, Churchill ne serait pas revenu au pouvoir s'il n'y avait pas eu de conflit à la Seconde Guerre mondiale. Hein. Puis une fois qu'il a été l'homme qu'il a été, c'est-à-dire pour moi probablement le plus grand homme de la Seconde Guerre mondiale, eh bien les Anglais lui ont dit merci. Quoi.
C'est ça, c'est à ce moment-là qu'on verra justement le...
Comme De Gaulle d'ailleurs, qu'on a remercié aussi.
Exactement, oui.
Voilà. Donc, et ensuite, quand on a été au pied du mur dans le conflit algérien, en 58, on rappelle De Gaulle. C'est souvent comme ça, en fait. Hein. C'est la crise qui fait que, collectivement, on se ressaisit. Mais ce n'est pas simplement avoir un homme fort ou une femme. Enfin, je crois que ça, c'est pas comme ça que ça marche, en fait.
L'avenir, les 10 prochaines décennies, pour vous Vous qui êtes plus dans le milieu que nous, c'est quoi? On peut être optimiste quand même sur le règlement des situations. Je parle de ces guerres qui éclatent un peu partout, mais on peut espérer que... Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein, quand on interroge un spécialiste, généralement on tombe souvent à côté, mais c'est vrai que c'est...
Je pense qu'il va falloir se réformer très très vite. Voilà. Et si on se réforme, notre plus grand ennemi aujourd'hui, il faut quand même pas l'oublier, c'est le dérèglement climatique.
C'est voilà. Ça, oui. Beaucoup
de
choses
là,
à faire.
Il y a énormément de choses à faire.
On a l'impression un peu de faire du vent avec l'histoire d'ailleurs des éoliennes aujourd'hui qu'on nous impose un peu partout dans la Vienne.
Il va falloir déplacer des populations, parce que quand on voit la carte de montée des océans, il faut repenser la manière de vivre, il faudrait repenser presque même le temps de travail. Voilà. Mais je pense qu'on a les capacités de le faire. Hein, voilà. Les années qui viennent, ça va être des années de... C'est même pas de la réforme, hein. Je pense que c'est une remise en question. Mais remise en question, c'est pas nécessairement négatif. Hein.
Mmh, beaucoup de...
Voilà, moi je trouve que ça veut dire qu'il va falloir changer sa manière de vivre, sa manière de partager, de consommer, de produire. Voilà, donc il faut se retrousser les manches, mais je pense qu'on peut y arriver. Hein.
Eh bien écoutez, c'est parfait. Je vous dis merci, on est arrivé pratiquement à midi, on va bientôt se quitter. Merci à vous d'être venu parmi nous. On essaiera de vous réinviter pour parler justement d'environnement et de choses comme ça, de climat, d'évolution climatique. Je vous dis merci, à bientôt, on se retrouve quant à nous la semaine prochaine en direct. Merci, à bientôt, au revoir.
Au revoir.
Les chemins de traverse, rando, trail, sentier, à vélo ou à pied, laissez-vous guider par Francis sur les chemins de la Vienne. Les chemins traversent sur REC 103.7, animé par Francis.